Hier soir, Wall Street a encore accroché de nouveaux drapeaux au tableau des records d'altitude. Les chiffres ne sont pas monstrueux, et franchement, ça n'a plus vraiment d'importance. Il suffit juste de savoir que le S&P 500 est en hausse de 0,3% et le Nasdaq de 0,1%. Alors, pas de quoi faire frémir un trader en penny stock, mais quand on est déjà au sommet, chaque centimètre supplémentaire commence à compter, surtout à des altitudes pareilles quand l'oxygène vient à manquer. Sauf que cette fois, eh bien, il y avait une petite surprise. Les actions et les obligations montaient ensemble, main dans la main. C'est un peu comme voir un chien et un chat dormir dans le même panier. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Alors, cherchez pas trop loin pour trouver la raison de cet étrange état de fait. Le marché est tout simplement convaincu que Jérôme Powell va sortir la tronçonneuse pour les taux à 3 reprises d'ici Noël. Et c'est tout simplement fascinant, il faut le dire, parce que si on se base sur notre vision à long terme, qui est tout de même passablement défaillante ces dernières années, on peut quand même être impressionné. Mardi matin, à l'aube de la publication du CPI, tout le monde marchait sur des œufs et se demandait si c'était vraiment le moment de baisser les taux ou pas. Et tout le monde se posait des questions sur le risque inflationniste réel. Sur le fond, personne ne se posait trop de questions sur la suite des événements, et quand je dis la suite, je veux parler de ce qui se passera après le meeting de la Fed du 16 et 17 septembre. Mais 48 heures plus tard, l'ensemble de la planète finance, eh bien, sont en train de plier l'histoire déjà jusqu'à fin décembre. On dirait donc que l'on a retrouvé notre vision à long terme, comme ça, d'un claquement de doigts, et sur base d'un seul chiffre économique qui est probablement mal calculé par le BLS, et qui, surtout, ne représente pas forcément la réalité. D'ailleurs, sachant que l'on a toujours une mémoire assez défaillante, je me permettrai tout de même de rappeler qu'au début de l'année 2024, quelques mois après le pivot de Jérôme Powell, le consensus prédisait entre 8 et 12 baisses de taux pour l'année 2024 à elle seule. Alors l'exercice du jour consistera à vous plonger dans les archives pour voir effectivement combien de baisses nous avons eues en 2024. Spoiler alert, c'est nettement moins que ce que l'on attendait. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 14 août 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. À l'heure où je vous parle, 93,8% des gens qui sont interrogés sur le sujet pensent que la Fed va baisser les taux au mois de septembre. Baisser les taux de 0,25%. Et il y a même un petit 6,2% qui parie carrément sur un 0,5% de baisse de taux. Il faut dire que le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, a été poussé en avant par son président, puisque depuis 2 jours, il est en train de faire de la baisse des taux son obsession personnelle. Le mégaphone économique de Donald Trump en a rajouté une couche hier, puisque selon lui, il faudrait tailler les taux de 1,5 à 1,75% d'un coup, rien que ça. Bessent, c'est pas une colombe, c'est un albatros à ce niveau-là. Et il a un argument tout trouvé, le marché de l'emploi est moins solide qu'il n'y paraît et la Fed est trop restrictive. Bon, par contre, il a pas parlé de l'inflation qui est en hausse de 4% par année sur les 5 dernières années, parce que ça, c'est beaucoup moins vendeur pour une baisse de 1,75%. Le secrétaire du Trésor était même au top de sa forme, puisqu'il est également revenu sur le fait que si les chiffres de l'emploi avaient été calculés correctement, salutations amicales à l'ancienne équipe du BLS, eh bien la Fed aurait coupé en juin et en juillet. Alors je vous dis tout de suite, le marché obligataire, lui, il achète pas du tout ce scénario de baisse XXL. Il presse un taux d'intérêt autour des 3%, mais pas avant l'automne 2026. Et puis on notera au passage que Bessent a confirmé que la shortlist pour remplacer Powell en mai prochain compte 10 ou 11 noms, dont Rick Ryder de chez BlackRock et David Servos de chez Jefferies. En tout cas, le chiffre du CPI de mardi aura donné le champ libre aux colombes et pour nous surprendre, dans un mois, Powell va devoir être inventif. D'ailleurs, préparez-vous mentalement parce que Powell, on va en reparler tout soudain puisque dès le 21 août, nous allons avoir la colonie de vacances des banquiers centraux à Jackson Hole dans le Wyoming et on sait tous que Powell, il aime bien déclarer des trucs là-bas. On va donc beaucoup en reparler avant, pendant et un peu après. Parlons maintenant brièvement de l'euphorie dans laquelle nous sommes en ce moment. Alors on le sait, les marchés sont très hauts, au plus haut de tous les temps, les performances sont lunaires et les valorisations sont parfois un petit peu élevées. On parle régulièrement de bulle, il y a clairement un excès de confiance et les signes d'extension sont plus que visibles. Si j'en faisais la liste dans cette vidéo, elle durerait trois fois le temps habituel. Mais en même temps, il y a le FOMO, la peur de rater le train, et l'intelligence artificielle qui fait oublier la raison et la prudence, tout en nous faisant également perdre les pédales lors de l'analyse des chiffres économiques. On le sait, les records boursiers donnent le sourire, mais si on gratte un petit peu en surface, on tombe vite sur des questions qui peuvent déranger. Et en ce moment, je vais être franc avec vous, on n'aime pas trop quand ça dérange, donc on évite de trop gratter. Même moi, en tant que YouTuber finance, je ne vous dis même pas le nombre de messages que j'ai reçus ces derniers temps qui me disent que je suis trop négatif et que j'ai rien compris. Alors, non seulement on veut que ça monte, mais on veut surtout que ça monte sans regarder ou sans même penser à ce qui ne va pas. Alors, si on prend le CPI de juillet, il a montré une inflation core. Core, c'est celui qui est sans la bouffe et l'énergie, il est à plus 3,1% sur un an, plus haut que depuis le mois de février et pendant que les prix des biens ont l'air de reculer. Bonne nouvelle, les tarifs douaniers font moins mal qu'au printemps. Mauvaise nouvelle, l'inflation reste au-dessus de la cible de la Fed et la croissance n'a rien, mais alors rien du tout, d'un feu d'artifice. Bonne nouvelle, le CPI classique était moins fort que les attentes. Mauvaise nouvelle, les entreprises retiennent encore la hausse des prix, ce qui nous sauve les fesses. Mais ce qui pourrait aussi engendrer de mauvaises surprises à l'automne, quand les mêmes entreprises, elles vont ouvrir les vannes. Et puis alors, il y a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, l'hyper-concentration. Oui, parce que c'est un fait, hein, les marchés montent, et c'est carton plein, mais pas tout le monde en profite. On va pas se mentir, on le sait tous, c'est la tech qui porte la baraque. Nvidia et Microsoft à eux deux pèsent désormais 15% du S&P 500, soit autant que les 332 plus petites valeurs de l'indice. Rien qu'en juillet, Nvidia a pris 13%, ce qui représente, en raison de son poids dans l'indice, la moitié de la performance du S&P 500 durant le même mois. Vous ajoutez Apple, Amazon, Alphabet et Meta, et vous avez 35% du poids de l'indice. En face, l'indice EqualWeight du S&P n'a pris que 5,4% depuis janvier. Le S&P 500 normal est à près de 10%. Merci Meta, merci Microsoft, merci Nvidia. Dans un indice qui est calculé sur le principe de l'EqualWeight, chaque valeur compte autant, quelle que soit sa taille en bourse. Dans le S&P 500 EqualWeight, par exemple, Apple et la petite dernière du classement auront chacune 0,2% d'importance dans l'indice, 1/500e. Dans le S&P 500 classique, celui qu'on garde tout le temps, qui est pondéré par la capitalisation boursière, Apple peut peser plus de 7% et certaines petites valeurs moins de 0,01%. Et puis autre chose, si on creuse un peu plus loin que le secteur de la tech, on va rapidement se rendre compte que les autres secteurs qui sont sensibles à l'économie, eux, eh ben ils font quand même grise mine. Les industriels prennent 0,4% sur un mois, les matériaux sont en baisse de 1,1% et l'immobilier est en baisse de 2,6%. Moralité, tant que Big Tech brille et tant que l'IA et le cloud cartonnent, tout va bien. Mais si le groupe commence à éternuer, c'est l'indice total qui va se prendre un rhume carabiné. Dans ce contexte, la Fed se retrouve avec son éternel double mandat sur les bras, stabilité des prix à 2% et plein emploi autour de 4%. Aujourd'hui, l'inflation est à 2,7%, 3,1% encore, et le chômage stable à 4,2%. Donc de ce côté-là, le mandat emploi est rompu. Sauf que le dernier rapport a révisé les créations de mai-juin à la baisse de 250 000 postes, plus un qui a été perdu par la patronne du BLS. Et l'emploi, on le sait tous, c'est un indicateur retardé. Quand ça se dégrade dans les chiffres, c'est déjà en train de se péter la figure sur le terrain. Donc là, on a deux camps qui s'affrontent, ce qu'on appelle les backward looking. On regarde dans le rétro, inflation pas maîtrisée, emploi solide, on bouge pas pour l'instant. Et les forward looking, on anticipe, donc l'emploi qui faiblit, l'effet tarifaire ponctuel, on coupe tout de suite pour éviter la casse plus tard. Bessent est bien évidemment un fidèle du clan forward, il pousse donc pour un choc de moins 150, moins 175 points de base et veut un futur patron de la Fed qui agisse avant de voir la fumée. Powell, lui, il est forcément dans l'autre camp, mais il va devoir céder face aux récents chiffres de l'inflation qui ne sont pas si forts que ça. Même si au fond, lui, il doit rester une vieille crainte de voir repartir l'inflation à la hausse dès que les tarifs douaniers vont se déverser pour de vrai sur l'économie et la consommation. Et cette perspective de taux plus bas, eh bien, elle met du carburant dans les petites capitalisations, puisque hier, le Russell 2000 a bondi de pratiquement 2%, un coût du capital réduit et une consommation dopée, c'est l'oxygène pour les small caps. Même ambiance du côté crypto et cannabis, Tout monte et tout le monde se sert au buffet du risk-on. Côté entreprise, Cisco a publié hier soir des chiffres légèrement au-dessus des attentes et confirmé ses objectifs annuels. Forte demande en IA, partenariat avec BlackRock, Microsoft, OpenAI, mais l'action perdait 2% après la séance. À croire que pour l'instant, à Wall Street, même un excellent bulletin scolaire mérite un peu mieux faire. Et puis surtout, le problème de Cisco, c'est qu'ils ne nous ont pas vendu du rêve. Ils étaient presque trop propres pour être honnêtes. En conclusion, les records d'hier, eh ben, c'est plutôt le fruit d'une espèce d'alchimie. Chimie fragile, l'obsession d'une fête plus douce, l'appétit délirant et gargantuesque pour la big tech et l'intelligence artificielle qui va transformer le monde et un marché prêt à ignorer les signaux macro mitigés. Mais la suite, par contre, elle va dépendre de trois déclencheurs. Tout d'abord, les chiffres de l'emploi et de l'inflation à venir, le PPI qui arrive tout à l'heure, et les jobless claims de la semaine qui vont sortir également à 14h30. Et puis, il y aura également le discours de Powell à Jackson Hole la semaine prochaine. Troisièmement, l'issue ou l'échec du sommet d'Anchorage. En clair, hier, Wall Street a fêté de nouveaux records, le Bitcoin aussi, le SOX est presque au plus haut de tous les temps, mais derrière le champagne et les cotillons, tout le monde garde un œil sur la sortie de secours pour voir si la fête continue ou si le videur qui s'appelle inflation, récession ou géopolitique, voire stagflation, vient couper la musique. Alors oui, je sais, peut-être que je suis parfois trop anxiogène, mais mon job, c'est aussi de vous présenter les fêtes qui soient bons ou mauvais. D'ailleurs, tenez, pour finir, si je vous montre ce chart... Eh bien, ce chart, ça n'est jamais arrivé avant. La capitalisation boursière du Nasdaq par rapport au PIB américain a atteint 105%, un record absolu. Ce ratio a quasiment doublé depuis le point bas du bear market en 2022 et se situe désormais à environ 40% au-dessus du niveau atteint lors de la bulle Internet de l'an 2000. On n'a pas seulement un record face au PIB US, mais aussi face au PIB mondial. Ce qui signifie que le Nasdaq concentre une part gigantesque de la création de valeur boursière à l'échelle globale, un signe de domination technologique, mais aussi de concentration extrême du risque. Bah, c'est un déséquilibre historique par rapport au cycle précédent. En l'an 2000, la bulle Internet avait éclaté peu après avoir atteint son pic, et en 2020, le Covid avait provoqué une correction brutale alors que le ratio tournait autour de 90%. Aujourd'hui, on est bien au-dessus de ces niveaux, ce qui laisse planer la question, est-ce que l'histoire va se répéter ou est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère de valorisation permanente. En résumé, le marché hurle à l'euphorie, à plein volume, avec un risque de correction structurelle si la croissance des bénéfices ne suit pas. Même si l'économie et l'IA continuent de justifier ces niveaux, on pourrait aussi assister à une redéfinition durable des standards de valorisation. Et pour terminer cette vidéo, on n'oubliera pas non plus qu'il y a un autre dossier qui tient les marchés en haleine, voire le monde entier, c'est le sommet Trump-Poutine prévu ce vendredi à Anchorage, en Alaska. Trump menace donc de très sévères conséquences si Poutine refuse un cessez-le-feu. Son objectif, décrocher un second round de négociations avec Zelensky dans la pièce cette fois et faire avancer l'idée d'un sommet trilatéral possiblement en Turquie. Les Européens, Manu en tête, rappellent que seule l'Ukraine décide sur le Donbass et la Crimée. Poutine lui réclame les deux comme condition préalable. Zelensky refuse catégoriquement, y voyant un tremplin pour la prochaine offensive russe, pour envahir l'Europe bien sûr. Tout le monde s'accorde sur une priorité, un cessez-le-feu rapide, des garanties de sécurité béton et plus de pression si Moscou ne bouge pas à Anchorage. C'est peut-être le bon moment pour rappeler Bruno Le Maire pour qu'il vienne mettre les Russes à genoux. Voilà pour ce tour d'horizon du jour, des records, des certitudes fragiles et beaucoup de questions qu'on préfère parfois oublier. Mais vous le savez, ici j'essaie toujours de gratter un peu plus loin que les gros titres, alors si vous voulez continuer à suivre l'actualité des marchés sans langue de bois, avec un tout petit peu de sarcasme et beaucoup d'ironie, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, activez la cloche, likez, partagez, etc., etc. Et puis n'oubliez pas surtout, comme le dit le Dalai Lama, l'optimisme ne signifie pas que tu sois aveugle à la réalité de la situation. Cela signifie que tu restes motivé à chercher une solution à tous les problèmes qui se présentent. Bon, moi je vais chercher une solution pour faire baisser les valorisations avant qu'elles nous pètent à la figure. À demain. Bye bye.